Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour à toutes, Torah Box Radio depuis Jérusalem. Bienvenue à notre émission Judaïsme au féminin. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, je m'appelle rabbanite Léa Benaïm et je suis maman Baruch HaShem de 7 enfants. Et j'enseigne dans les séminaires francophones de Jérusalem depuis à peu près 13 ans. J'ai également étudié la psychologie selon la Torah et le coaching selon la Torah. Et je suis arrivée à la conclusion que ma passion, ce qui me tient beaucoup beaucoup à cœur dans la vie, c'est d'aider les femmes juives à vivre pleinement leur judaïsme, à s'épanouir dans leur judaïsme, dans leur mitzvot, dans leur rapport avec Hachem. Et peut-être que vous me connaissez d'ailleurs de Torah Box Femmes, là-bas j'ai aussi quelques interventions. Et j'espère que Bémet, à travers cette émission, donc Judaïsme au féminin, nous allons Bezrat Hashem nous retrouver à peu près une fois par semaine. J'espère que dans cette émission, nous allons réussir ensemble à nous renforcer, à trouver des réponses, à nous enrichir et à comprendre réellement qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous et à quel point le judaïsme c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus sûr, de plus épanouissant pour une femme, pour tout le monde, mais là on parle des femmes. Donc, de toutes les manières, sachez que vous pouvez toujours nous écrire, nous faire des propositions ou des remarques à l'adresse mail radio, R-A-D-I-O, @torah-box.com. Et bien, on tâchera de vous répondre, de revenir vers vous. Maintenant, le sujet que je voulais avec vous aborder aujourd'hui, c'est la période qu'on est en train de traverser, qui s'appelle la période de Bein HaMetzarim. Cette période de Ben HaMetzarim, elle commence le 17 du mois de Tammuz et se termine le 9 du mois d'Av. On a 3 semaines pendant lesquelles on demande de nous endeuiller sur la destruction du Beit HaMikdash. J'aimerais qu'ensemble on essaye de comprendre un petit peu, ça veut dire quoi s'endeuiller sur la destruction du Beit HaMikdash ? Ça veut dire quoi, pourquoi toutes ces restrictions, ne pas écouter de musique, pas de mariage, etc. Et qu'est-ce qu'en vérité Hachem il attend de nous et comment est-ce qu'on pourrait en vérité exploiter cette période? Parce que c'est une période à exploiter, Hachem il attend quelque chose de nous. Et plus on comprendra c'est quoi ces 21 jours, et plus on réussira à les vivre pleinement pour leur donner tout leur sens. Mais avant de continuer, je voudrais vous proposer d'abord une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Organiser un cours avec un rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour à toutes. Donc nous voilà dans notre émission Judaïsme au féminin par rabbanite Léa Benaïm. On reprend où est-ce que je m'étais arrêtée avant la page de publicité. Je vous expliquais que le but de cette émission est de mieux comprendre notre judaïsme pour nous les femmes et qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Et donc là, le sujet d'aujourd'hui sera le sujet donc de Bein HaMetzarim, de cette période de 3 semaines pendant laquelle nous nous endeuillons sur la destruction du Beit HaMikdash. D'abord, il faut comprendre que toutes les dates du calendrier juif, toutes les dates particulières, toutes les dates comme les fêtes, les Shabbatot, sont en vérité des rendez-vous qu'on a avec Hachem. C'est-à-dire que c'est évidemment pas simplement des souvenirs, on ne vient pas par exemple à Pessah juste pour se souvenir que nous sommes sortis d'Égypte, de la même manière qu'on ne vient pas pendant cette période de Bein HaMetzarim uniquement se souvenir que notre Beit HaMikdash a été détruit. Ce souvenir, c'est quelque chose de passif. Et notre judaïsme, c'est quelque chose d'actif. Lorsque nous arrivons à une date clé, nous devons bien comprendre que c'est une date à laquelle Hachem nous parle. Hachem parle en vérité à toute l'humanité. Hachem parle plus particulièrement au peuple juif. Et Hachem nous parle également à chacune d'entre nous. À chacune d'entre nous, Hachem, il nous dit, il nous donne des directives, il nous parle. Parfois, on ne comprend pas toujours ce qu'il nous dit. Mais le but, c'est d'essayer de plus en plus, en étudiant, en faisant des introspections, à comprendre ce qu'il veut nous dire. Et donc, là, cette période de Ben Hametzarim, il faut savoir que c'est donc une période de 21 jours qui, c'est étonnant, c'est peut-être marrant, mais c'est marrant parce que ces 21 jours correspondent quelque part aux 21 jours du début du mois de Tishrei. Le mois de Tishrei, c'est donc le mois des fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Et nos sages nous disent que ce n'est pas un hasard si ces deux périodes sont des périodes de 21 jours, parce qu'en vérité, les 21 jours de Ben Hametzarim, ces 21 jours qui sont en réalité une période de deuil pour le peuple juif, sont une préparation aux 21 jours des fêtes de Tishrei, pendant lesquelles nous commençons avec Rosh Hashanah, nous sommes jugés, ensuite Yom Kippour, le jour du grand pardon, et la fête de Sukkot. Ces 21 jours avec lesquels on termine l'année sont quelque part une remise en question de tout notre judaïsme. En fait, il faut bien comprendre que Hachem, il nous demande d'être honnête. Et si on veut être honnête, eh ben, ces 21 jours, ces 3 semaines, elles viennent un petit peu comme une épine dans notre pied. Elles sont pas... On aimerait bien s'en passer. Pourquoi ça? C'est l'été. Les enfants sont en vacances. On aimerait bien sortir, se promener, faire la fête. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, 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 tu stoppes tout. Et tu te recentres sur le deuil du Beth Amikdash qui a été détruit il y a près de 2000 ans. Pour tout vous dire, c'est pas facile. Pour tout vous dire, en général, on se dit même vivement qu'on arrive à la fin de ces 3 semaines et qu'on puisse sauf quelque part respirer, souffler et reprendre une vie avec de la musique, avec des mariages, etc. Eh ben non. Le béaba de notre judaïsme, c'est de savoir que tout ce qu'Hachem nous envoie, c'est bon pour nous et que tout ce qu'Hachem nous demande, c'est également bon pour nous. Et donc, si Hachem nous demande qu'avant les grandes vacances, qu'avant la période, le mois de Elul, où c'est le mois de la Tshuva, avant d'arriver au mois de Tishrei, au mois de des défaites, on doit passer par cette période qui va nous demander un petit peu de comprendre mais qu'est-ce qui nous manque réellement dans notre vie au point où on doit s'endeuiller pendant 3 semaines sur quelque chose qui est tellement loin de nous. C'est loin de nous le Beth Amikdash. Je vais vous raconter une petite parabole qui va nous aider à comprendre ce qu'on ressent et en vérité comprendre que ce qu'on ressent, c'est normal, c'est humain. On raconte l'histoire d'un homme dont la femme est morte en couche. Et donc, cet homme a élevé seul le bébé. Et toute sa vie, le papa a attendu qu'arrive le moment de la bar mitzvah du garçon pour qu'il puisse donc prononcer le kaddish pour l'élévation de l'âme de sa maman. Les années passent et arrive le jour de la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah, le père est très 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 ému. Le père est très... Il attend que le fils donne enfin à sa mère le cadeau de l'éternité, le kaddish. Et il se rend compte que le fils n'est pas du tout ému et prononce le kaddish très très froidement. Et le père ressent une déception énorme. Et il va voir son fils et il lui dit « Je ne comprends pas, ta maman, elle a perdu sa vie pour te mettre au monde. Ça fait 13 ans que sa neshama, elle attend, elle a besoin de ton kaddish qui va élever son âme. » Et c'est aussi froidement que tu le lis, que tu le récites. Et le petit garçon, qui est encore qu'un petit garçon, il n'a que 13 ans, il va voir son papa et il lui dit « Mais papa, comprends-moi. Maman, moi, je ne l'ai pas connue. Toi, tu l'as connue, tu l'as aimée, mais moi, je ne l'ai pas connue. » Et cette parabole, elle est un petit peu nous. On nous demande de nous attrister sur la destruction du Beth Amikdash. Mais on n'a pas connu le Beth Amikdash. Nous, on ne connaît que cette vie. On ne connaît que la vie, le monde dans lequel on a évolué, dans lequel on est né, dans lequel on a évolué. On ne connaît pas une autre vie. Et on nous demande de s'attrister de quelque chose qu'on n'a pas connu. On nous demande d'espérer quelque chose, d'espérer la Géoula, d'espérer le Mashiach, d'espérer la délivrance. Mais on ne sait pas vraiment ce qui nous attend là-bas. Quelque part, ici, on a nos repères. Après, on ne sait pas ce que deviendra notre vie. Et en réalité, il faut bien savoir, faut bien comprendre que la source de notre difficulté à vivre cette période, c'est que non seulement on ne comprend pas vraiment de quoi est-ce qu'on doit s'endeuiller, et puis aussi, quelque part, ce qui nous tracasse dans nos vies, c'est surtout nos problèmes quotidiens. Qui c'est qui n'a pas ces problèmes ? Celle qui a du mal à trouver son mazal pour se marier, une autre qui a du mal, qui aimerait avoir des enfants, la troisième avec un problème de parnassa, la quatrième avec un problème d'éducation. Nous avons toutes des difficultés et toutes nos prières, toute notre philote sont axées autour des difficultés et des épreuves que nous rencontrons. Et là, on nous dit non, tu stoppes tout et tu te concentres sur l'essentiel, en vérité, qui est de demander la Géoula, de demander la venue de Mashiach. Et non seulement tu demandes le Mashiach, mais en plus, tu dois t'endeuiller et t'attrister que le Beit HaMikdash n'est pas reconstruit. C'est pas facile, mais c'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui ensemble, pour permettre d'essayer de voir que oui, la destruction du Beit HaMikdash, oui, ça nous concerne. Et que demander la Géoula, c'est oui, la solution à tous nos problèmes, mais on va y revenir. On raconte que un jour, le prophète Yirmiyahou, donc qui était le prophète qui a prophétisé au moment de la destruction du premier Beit HaMikdash, a rencontré le philosophe Platon. Et le philosophe Platon voit donc Yirmiyahou en train de pleurer sur la destruction du Beit HaMikdash. Et Platon lui dit, mais enfin Yirmiyahou, tu es quelqu'un de tellement intelligent, comment est-ce que tu peux pleurer sur des pierres qui n'existent plus, sur un édifice qui a été brûlé? Comment est-ce que toi, quelqu'un de si intelligent, tu peux pleurer pour quelque chose qui appartient au passé? Nous, les hommes intelligents, il parle en tant que philosophe, nous savons bien qu'on ne pleure pas sur le passé. On doit se concentrer sur le présent et sur l'avenir. Et Yirmiyahou va quelque part lui faire un petit jeu comme ça. Il va lui dire, pose-moi des questions, Platon. Pose-moi des questions, les questions les plus difficiles que tu rencontres dans tes réflexions philosophiques. Et Platon donc se met à lui poser des questions et Yirmiyahou répond à toutes ces questions. Platon est encore plus impressionné, il lui dit « Waouh, quelle intelligence !» Alors encore plus, je comprends pas comment est-ce que tu pleures alors que tu es si intelligent, qu'est-ce que tu pleures sur le passé ? Et Yirmiyahou qui lui répond « Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre parce qu'en vérité, toute mon intelligence, je l'ai tirée de ces pierres. Je l'ai tirée du Beit HaMikdash. Et ça, c'est quelque chose qu'un goy, il ne peut pas comprendre. » En réalité, on ne comprend pas que la source de nos problèmes, ça provient du fait qu'on n'a plus de Beit HaMikdash et qu'on est en galoute, qu'on est en exil, qu'Hachem, il n'est pas visible, qu'Hachem, il est loin de nous. On est, entre guillemets, obnubilé par nos problèmes du quotidien, mais on ne se rend pas compte que lorsque la Géoula sera là, lorsque le Mashiach sera là, alors tous ces problèmes s'évaporeront, tous ces problèmes disparaîtront. On voit que, on nous raconte également un autre machal, une autre parabole d'un prince qui se balade et puis au cours de sa balade, il tombe dans une fosse. Et tout de suite, bien sûr, il appelle au secours, mais personne ne passe. Et puis après quelques heures, il se dit, ben, j'ai pas le choix, je vais essayer de voir si je peux m'installer dans ce trou. Il commence à voir s'il y a quelque chose à manger, s'il y a des herbes, s'il peut essayer de se faire un endroit pour s'allonger. Et puis, bon, c'est ce qu'il fait. Il commence à s'installer un peu dans ce trou. Et puis après quelques heures, il entend des voix. Oh, voilà, ça y est, on vient me sortir de là peut-être. Il court vers l'ouverture du trou. Il appelle au secours. Et évidemment, donc les gens se penchent. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous en supplie. Apportez-moi de quoi boire, apportez-moi à manger, apportez-moi un coussin, apportez-moi un matelas, un drap, des couvertures. Et les gens qui sont en haut du trou, ils se disent, mais c'est pas possible, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il demande tout ça, qu'il nous demande de nous sortir de le sortir de là? C'est pas normal. Et réellement, on a l'impression que le prince est devenu fou. Mais quelque part, le prince, c'est un peu nous. Nous, on est là, on est en galoute, on est en exil. Et on demande à Hachem, on demande la parnassa, on demande la guérison, on demande plein de choses qui sont tellement importantes à nos yeux. Mais en réalité, les sages, ils nous disent, mais vous comprenez pas que vous devez sortir de là, sortir de cet exil. Et que lorsque vous sortirez de cet exil, alors, vous verrez les solutions à tous vos problèmes. Vous comprendrez qu'en vérité, la solution avec un grand L, c'est le Mashiach qui viendra. Pourquoi ? Et pourquoi ça ? Parce que Dieu a créé ce monde pour nous donner. Dieu, à la création de ce monde, il a voulu donner. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu donner ? Parce que Dieu est le bien par excellence. Et que Hachem est tellement bon qu'il veut nous donner. Malheureusement, nous avons fauté. Et nous sommes en période de réparation. Nous réparons les fautes que nous avons faites. Nous avons fauté. Déjà, Adam Harishon a commencé à fauter. Ensuite, il y a eu les fautes qui ont entraîné la destruction du premier Beth Amikdash. Et des fautes qui ont entraîné la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et nous sommes encore... donc en train de réparer ces fautes. Et tant que nous réparons ces fautes, nous ne pouvons pas jouir de tout le bien que Dieu veut nous donner, parce que nous avons mis des écrans entre Dieu et nous. Le Rav Dessler, il nous explique que on peut nous comparer à quelqu'un qui serait dans une maison, mais avec des vitres sales. Et donc comme ces vitres sont sales, il n'arrive pas à jouir de la lumière, du soleil, donc sa pièce est toute obscure. Et le Rav Dessler dit, en vérité, nous sommes un petit peu comme cet homme dans cette maison. Et Akadosh Baruch Hu, si on peut le comparer au soleil, mais Bémet, c'est la lumière de notre vie, de nos vies. Et la lumière est là. Hachem, il est là pour nous donner. Hachem, il nous donne. Mais nous sommes entravés à recevoir ce bien à cause de nos fenêtres sales. Ces fenêtres sales, c'est tout ce que nous sommes venus réparer. Tous nos mauvais traits de caractère, toutes les avérotes, les fautes que nous pouvons faire. Et donc, nous ne pouvons pas recevoir de toute cette lumière et de tout ce bien qu'Hachem veut nous donner et pour lequel il a créé ce monde. Et en vérité, il faut bien comprendre que Hachem, il attend la Géoula, il attend qu'on lui demande de nous délivrer. Pourquoi ? Parce que c'était le but de la création de ce monde. C'est pour ça qu'Hachem a créé ce monde. Il a créé pour nous donner. Et tant qu'il ne peut pas nous donner ce qu'on appelle un chesed galoui, une bonté dévoilée. Parce que tout est bon. Tout ce qui vient d'Hachem, c'est bon. Même les choses difficiles que nous rencontrons sont bonnes. Mais en réalité, parfois, elles arrivent dans ce monde sous forme d'épreuves. Et ici, on en souffre. Bien que tout ce qui vient de Dieu est bon, mais on n'est pas capable de comprendre ça. Lorsqu'une personne, malheureusement, est malade, on ne peut pas comprendre que c'est quelque chose de bien. Et qu'est-ce que Hachem nous demande ? Demandez la Géoula, demandez la délivrance pour que, enfin, je puisse vous donner ce bien de manière dévoilée. C'est-à-dire quoi ? C'est quoi le bien dévoilé ? C'est le bien sans entrave. C'est le bien que nous, avec nos yeux de personnes toutes simples, nous voyons que c'est du bien. Des joies, des naissances, de la santé, de la parnassa, tout ça. Donc, pour résumer ce que je viens de vous dire, alors c'est vrai, c'est une période qui n'est pas facile à passer. C'est une période qui n'est pas facile à avaler. Mais il faut bien comprendre que cette période, elle attend de nous un travail. On n'est pas là pour se souvenir de quelque chose, mais on est là pour être actif. Le premier travail est de comprendre qu'il nous manque quelque chose dans nos vies. Et que ce quelque chose qui nous manque dans nos vies, c'est Hachem, c'est la Shrina, c'est la présence d'Hachem. Et que lorsque Mashiach reviendra, alors tout reviendra, et encore plus qu'à la période des Beth Amikdash, du premier et du deuxième temple, et cela résoudra tous nos problèmes. On vivra Hachem, et cela sera la solution à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés. Et je vais vous expliquer, après une pause de musique, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut encore plus essayer de se connecter à cette période, et surtout d'être actif pendant cette période et de comprendre qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui a disparu, vers quoi nous devons nous languir, à quelle sorte de vie nous devons aspirer. Alors, quelques minutes de musique et on reprend tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
عذرني الحي لاخني يا عذرني لاخني يا יצר המפתה המריע, את יצר המפתה המריע. מבלתך אין מושיע להושיע אני,
מבלתך אין מושיע להושיע אני.
דלת תשובה חי פתח אלי,
אלי אלי.
דלת תשובה חי פתח אלי,
אלי אלי.
כי שבתי מחתי ומעלי, כי שבתי מחתי ומעלי. אנא צורי שם הכל ימרענני,
אנא צורי שם הכל ימרענני.
עוד דעה לפשעי
אתה תישא עווני,
עוד דעה לפשעי
אתה תישא עווני.
עוד דעה לפשע אתה תישא עווני. סוד ימינך הפשוטה,
אלי אלי.
סוד ימינך הפשוטה,
אלי אלי.
לקבל את נפש המתחרטה, לקבל את נפש המתחרטה. ולא תוסיף תחתה אליך קוני,
ולא תוסיף תחתה אליך קוני.
הרחקנה מעליה
חברת קטע צפוני,
הרחקנה מעליה
חברת קטע צפוני,
הרחקנה מעליה חברת קט הצפוני.
שלום לבן דודי יצא חבי האדמון, שלום לבן דודי יצא חבי האדמון. שלום לך מעט רכה כמו רימון, שלום לבן דודי, שלום לבן דודי.
לקראת תחות חרוץ אינה להושיע, לקראת תחות חרוץ אינה להושיע. וצלח בבן ישי רבת בן עמון.
שלום לבן דודי, שלום לבן דודי.
מלאך יפהפיה ותורר יבה, מלאך יפהפיה ותורר יבה. וצלצלי קולך כמעיל בכל פעמון.
שלום לבן דודי,
שלום לבן דודי. הארץ אשר תחפוץ הרווח ישנה, הארץ אשר תחפוץ הרווח ישנה. אתה ועלייך ארד כתל חרמון.
שלום לבן דודי, שלום לבן דודי.
שלום לבן דודי.
Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour à toutes après cette pause musique. Donc pour les nouvelles arrivées, nous sommes en train de développer et d'expliquer dans notre émission Judaïsme au féminin le comment vivre les trois semaines de Ben Hametzarim, comment exploiter ces périodes, comment mieux comprendre cette période. Je vous rappelle que si vous avez des propositions, des remarques, quelque chose à nous dire, vous pouvez nous envoyer un message au mail radio@torah-box.com. Et avec plaisir, on essaiera, Bezrat Hashem, de vous répondre. Dans la première partie de notre émission, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que c'était tellement difficile de s'identifier à cette période de deuil et comment est-ce qu'on pourrait un petit peu essayer de l'appréhender, comment est-ce qu'on pourrait la vivre différemment, lui donner plus de sens pour, en vérité, amener la Géoula. Parce que cette période est une période dans laquelle les Chachamim, les sages nous disent que c'est une période qui contient un potentiel énorme de réveiller nos forces pour hâter la Géoula. Parce que chacune d'entre nous, nous avons la possibilité d'agir pour la Géoula. Et il faut vraiment prendre conscience de ça. Il faut savoir que on a l'impression que waouh, c'est loin la Géoula, c'est loin la délivrance Mashiach. Ça fait tellement d'années que le peuple juif demande, des si grandes tzadikim ont demandé, qu'est-ce que moi, petite comme je suis, je peux faire pour ça? Et bien il faut savoir que cette pensée, c'est une pensée du Yetzer Hara. Pour la simple raison que Hachem attend de chacune d'entre nous de faire un petit pas pour hâter la Géoula. Le Rav Pintras de Kouritz dit que lorsque Mashiach viendra, lorsque nous réaliserons combien nous étions proches, combien il manquait vraiment tellement peu pour pouvoir faire que le Mashiach vienne, on regardera en arrière, on se dit « Oh là là, c'est tellement dommage !» Et bien, au lieu d'attendre de dire « c'est dommage », on peut dès maintenant se dire « Oui, chaque petit acte que je peux faire, que je vais faire, ça peut hâter la Géoula. » Mais d'abord, avant d'expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, je veux essayer de vous expliquer sur quoi on s'endeuille. C'est quoi s'endeuiller sur Jérusalem que je n'ai pas connu? Parce que pour s'endeuiller sur quelque chose, il faut un petit peu savoir de quoi on parle. Et donc je vais vous expliquer un petit peu, c'était quoi le Beit HaMikdash? C'était quoi la vie au Beit HaMikdash? Il faut savoir déjà que les Juifs devaient venir trois fois par an pour ce qu'on appelait Aliyah la Regel, monter au Beit HaMikdash de toutes les villes du pays. Ils devaient monter à Jérusalem pour fêter les fêtes donc de Sukkot, de Pessah et de Shavuot. En réalité, la vie du juif, toute l'année, elle tournait autour de ces trois dates, autour de ces trois fêtes. On a l'impression que c'était peut-être trois semaines dans l'année et pas plus que ça. Non, toute l'année, le juif se préparait lorsqu'il s'agissait de préparer les prémices qu'il allait apporter au Beit HaMikdash, s'il s'agissait de préparer les sacrifices qu'il devait apporter lorsqu'une femme accouchait, il devait apporter des sacrifices, il y avait toutes sortes de sacrifices à apporter. Et en réalité, toute l'année tournait autour de ces fêtes, autour du Beit HaMikdash. Pour comprendre aussi également c'était quoi donc la vie à Jérusalem à l'époque du Beit HaMikdash, on raconte l'histoire dans la Gemara de Rabbi Yochanan et de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer étant le maître de Rabbi Yochanan. Un jour, Rabbi Eliezer tomba gravement malade et Rabbi Yochanan vint le rendre visite. On sait que Rabbi Yochanan était extrêmement beau. Lorsque Rabbi Yochanan rentra dans la pièce de Rabbi où Rabbi Eliezer était allongé, on dit que toute la pièce, elle s'illumina de la lumière, de la beauté du visage de Rabbi Yochanan. Lorsque Rabbi Eliezer voyait Rabbi Yochanan, il se mit à pleurer. Et Rabbi Yochanan, il ne comprend pas. Il voit son maître malade, presque mourant, en train de pleurer. Et il lui dit, mais maître, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que tu pleures parce que tu crois que tu n'as pas assez exploité en mitzvot ce monde? Mais tu es tellement tzadik, tu as tellement étudié, tu as tellement fait, ne t'inquiète pas. Et Rabbi Yochanan essaye donc de comprendre la raison des pleurs de son maître. Et Rabbi Eliezer lui répond, non, je pleure parce que je vois ta beauté et qui va finir par mourir. Tu vas finir par mourir. Et je vois cette beauté qui va finir par disparaître de ce monde. D'abord, c'est très étonnant. Rabbi Eliezer, un homme tellement saint, tellement élevé, qui pleure pour de la beauté matérielle, pour la beauté de son élève Rabbi Yochanan, c'est pas tellement compréhensible. Mais encore plus difficile à comprendre, c'est la réaction de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il lui dit, tu sais quoi? Pour ça, t'as raison. Pour ça, il y a de quoi pleurer. Et alors là, on ne comprend pas du tout. Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan, des sommets de Gdusha, se mettent à pleurer parce que la beauté de Rabbi Yochanan va finir sous terre, si on peut se permettre de parler comme ça d'un tzaddik. En vérité, les Chachamim vont nous expliquer, les sages vont nous expliquer que lorsque Rabbi Eliezer parle de la beauté de Rabbi Yochanan, il ne parle pas uniquement de la beauté physique. C'est vrai que Rabbi Yochanan était beau physiquement, mais il parle de la beauté de l'âme. La beauté de l'âme qui retransparaissait dans son visage, la gdusha de son âme. Et en vérité, lorsque Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yochanan, j'ai de la peine pour ta beauté qui va disparaître, il allusionne là toute cette beauté qui était à Jérusalem. Parce qu'on dit que Rabbi Yochanan faisait partie des beaux de Jérusalem. Ça veut dire quoi des beaux de Jérusalem? Jérusalem, on dit que Dieu a descendu dans ce monde 9 mesures de beauté. Et que Jérusalem a pris 9 des 10 mesures. Hachem, je répète, Hachem a mis dans ce monde 10 mesures de beauté et Jérusalem en a pris 9. Pour dire que les gens... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non seulement Jérusalem était la ville la plus belle du monde, mais cette beauté, c'était une beauté spirituelle. Une beauté de gens élevés, une beauté de gens qui étaient liés, connectés à Hachem. Une beauté de gens purs, une beauté de gens saints, une beauté de gens aimants, une beauté de gens honnêtes, une beauté de gens vrais. C'est sur cette beauté que Rabbi Eliezer y pleure. Cette beauté de l'âme, qu'en vérité, sur Rabbi Yochanan, on pouvait déjà la voir sur son visage. Ça nous rappelle également un petit peu, lorsqu'on nous parle des Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, et qu'on nous dit qu'elles étaient belles. Bien sûr, elles étaient belles physiquement, mais en vérité, c'est la beauté de leur âme qu'on voyait sur leur visage. Et donc, Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan pleurent. Pleurent pourquoi? Parce qu'ils sentent que c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère où le monde était beau, les gens étaient beaux, les gens étaient saints, les gens s'aimaient. Les gens s'aimaient, ça veut dire quoi? Vous savez qu'on raconte que lorsque les gens venaient au Beth Amikdash, donc 3 fois par an, donc tous les gens du pays venaient à Jérusalem et il y avait une arnasat torchim, les gens recevaient, les gens qui venaient de tout le pays, vraiment avec largesse. On raconte qu'ils mettaient à l'entrée des portes de leur maison, ils mettaient comme ça une nappe blanche et ça voulait dire... Tout celui qui veut, il peut rentrer, venir habiter chez nous pendant cette période de la fête. Évidemment, sans demander d'argent. Ils avaient le cœur plein d'amour pour les autres. D'ailleurs, on peut un petit peu retrouver ça aujourd'hui lorsqu'on va au Kotel et qu'on voit que Béhémet, tout le monde s'aime au Kotel. Au Kotel, on est tous pareils. On est tous là pour prier à Hachem, pour déverser notre cœur. Il n'y a pas de différence, de religieux, pas religieux, Ashkenaz, Sépharad. Non, on est tous... Avec cet amour, il y avait un amour à Jérusalem, tout le monde recevait tout le monde. On raconte également qu'à Jérusalem, pendant la période des fêtes, il y avait une ambiance de joie, une atmosphère de Gdusha indescriptible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jérusalem était la ville la plus belle. On dit par exemple qu'à Jérusalem, on nettoyait les marchés tous les jours, que les rues étaient larges, que les poubelles n'étaient jetées que dans un endroit bien particulier pour ne pas salir la ville. Il y avait également autre chose à Jérusalem à l'époque. N'oubliez pas que les Juifs apportaient des corbanotes, des sacrifices le matin et le soir. Et ces sacrifices expiaient leurs fautes, c'est-à-dire que les Juifs dormaient et se levaient sans faute, sans avérote. On sait que les avérotes et les fautes, c'est ce qui nous entrave la relation avec Hachem. Mais puisqu'ils avaient la possibilité d'offrir des sacrifices qui allaient expier leurs fautes, alors ils n'étaient plus, ils pouvaient vivre sans ces fautes qui les éloignaient d'Hachem. Vous savez, j'ai entendu d'un rav qui disait « Est-ce que vous croyez qu'à l'époque du Beth Amikdash, les gens, ils rencontraient pas de difficultés, de parnassa ou de santé? » Non, ça arrivait également. Bien sûr, il y avait des gens malades, il y avait des gens qui avaient des difficultés à subvenir à leurs besoins. Mais la grande, grande différence, c'était que grâce au Beth Amikdash, on pouvait ressentir combien Hachem est notre Père aimant et bienveillant. à travers les krouvim, vous savez, ces chérubins qui étaient dans le Kodesh HaKodeshim, à travers les services des Kohanim, à travers les chants des Lévi'im. Ces chants, on ne peut même pas imaginer aujourd'hui comme ces chants étaient beaux et comment ces chants réveillaient l'âme. Et bien, à travers tout ça, les gens ressentaient qu'ils ne sont pas seuls. Qu'Hachem, il est là avec eux. Qu'Hachem, il les accompagne. Qu'Hachem, il va leur trouver des solutions. Qu'Hachem, il est présent dans leur vie. Et donc, même les difficultés qu'ils rencontraient, ça ne leur faisait pas peur. Ils avaient la force de les affronter. Pourquoi ? Parce que le Beit HaMikdash leur permettait de sentir la Shrina, de sentir la providence divine, de sentir la proximité avec Hachem. Donc, je vous ai également parlé de cet amour et de cette unité qui régnait à Jérusalem. C'était quelque chose d'extraordinaire. On nous dit également aussi que les femmes n'avaient même pas besoin de se parfumer. Pourquoi ? Parce que l'odeur de la Ketoret, donc de ces encens qu'on faisait brûler dans le Misbéach, était tellement agréable dans l'air, une odeur tellement agréable que les femmes n'avaient même plus besoin de se parfumer. C'est pratique. Pour vous dire que même les odeurs, c'était enivrant. Les juifs, ils se sentaient aimés par Hachem. Vous savez que la source de tous nos problèmes, c'est qu'on n'est pas convaincu de l'amour qu'Hachem nous porte. On en reparlera de cette notion, c'est une notion tellement importante. Mais c'est vrai que les juifs à l'époque, ils sentaient combien Hachem est leur père, combien Hachem est présent, combien Hachem les aime. D'ailleurs, David Ameler, dans son Tehillim, il nous dit une phrase comme ça, Jérusalem, qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unicité, pour parler donc de cette ardoute, de cette unité qu'il y avait à Jérusalem. Et bien vous savez, Bezrat Hashem, lorsque Mashiach reviendra, on ressentira de nouveau ce sentiment de joie et de plénitude, mais encore plus grand, encore plus fort, puisque le troisième Beit HaMikdash, c'est la rédemption finale, c'est l'aboutissement de ce monde. Hachem, il a créé ce monde pour nous donner, on l'a dit. Hachem, il a créé ce monde pour se dévoiler dans ce monde. Et Hachem, il n'attend que ça. Il n'attend qu'une chose, c'est pouvoir se dévoiler à nous totalement. Et lorsque Hachem se dévoilera à nous, tous nos soucis disparaîtront. On vivra une vie avec une joie et un sentiment d'amour et d'union et de bonté de la part d'Hachem entre les hommes. Qu'on ne peut même pas imaginer, on a du mal aujourd'hui à imaginer qu'est-ce que sera la vie lorsque Beit HaMikdash viendra. Mais quelque part, on peut essayer de comparer ça à un enfant dont la mère est partie au travail. Et c'est un enfant, c'est la première fois peut-être que sa mère le laisse. Et donc il se met à pleurer. Pour lui, c'est la fin du monde, sa maman, elle l'a laissé. Et donc on lui met des jouets autour de lui, on essaye de l'occuper à autre chose. Et bon, il accepte, c'est un enfant. Il se met à jouer au Lego, au Kapla. Et puis, quand sa mère revient, l'enfant va tout abandonner, va jeter tous les jouets pour sauter au bras de sa maman et l'enlacer. Pourquoi ? Parce que rien ne vaut l'étreinte d'une maman. Et c'est vrai que j'entends parfois de femmes qui se conseillent avec moi et qui me disent « On a tellement peur de la venue de Mashiach. On a nos repères ici. Qui nous dit que ce sera mieux après ? Qui nous dit qu'on ne va pas être perdu ?» Eh bien, rappelez-vous cet enfant. Aujourd'hui, on est en train de jouer avec des jouets, avec des choses qui sont éphémères. Nos repères sont éphémères. Le seul véritable repère qu'un juif peut avoir, c'est le sentiment qu'il y a Kadosh Baruch Hu, qu'il a un Dieu, qu'il a un Père, qui s'occupe de lui, qui s'intéresse à lui, qui veut de lui, et qui ne veut qu'une chose, lui donner, mais un maximum. Donc, pour vivre cette période pleinement, la première chose, c'est comprendre qu'est-ce qui nous manque. Lire autour de Jérusalem ce qui se passait à l'époque, et ce qui a été malheureusement abîmé, entaché, jusqu'au point d'en arriver à la destruction du Beit HaMikdash. Se languir, pas de quelque chose que je n'ai pas connu, mais oui, de quelque chose que j'ai connu, que j'imagine. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà connu dans ma vie des moments de plénitude. Peut-être pas souvent, malheureusement, mais chaque fois que vous avez ressenti un moment de plénitude, un moment de sécurité, un moment où vous sentez Dieu dans votre vie, un moment de grande joie, eh bien, sachez que c'est rien par rapport à la période de la rédemption finale. Ou quoi ? Où on retrouvera notre père, comme cet enfant qui retrouve sa mère. Et si on reprend la parabole de cet enfant, imaginez-vous que cet enfant, il marche dans la rue et qu'il a l'impression qu'il a perdu sa maman, il ne la retrouve plus. Et puis subitement, il se tourne et il la voit derrière lui. Waouh ! Comment il est rassuré? Ah, elle est là, elle était juste là derrière moi, mais je ne l'avais pas vue. C'est exactement nous, lorsque Mashiach viendra, on se retournera en arrière devant de tous nos soucis, de toutes nos difficultés, de toutes nos épreuves, et on verra, ah, il est là, il était là juste derrière nous, Hachem, il était là, il est présent. On sera tellement rassurés et on comprendra rétroactivement combien est-ce qu'on ne peut pas vivre sans lui, combien est-ce qu'on a besoin de lui, combien est-ce qu'il nous apporte, combien est-ce que c'est lui la clé de tous nos problèmes. Mais pour ça, il faut qu'il se dévoile et il faut qu'on le veuille. Il faut qu'on veuille que Dieu se dévoile. Il faut qu'on veuille le Mashiach réellement. Il faut qu'on réveille à l'intérieur de nous le désir de la Géoula. Il faut qu'on réveille à l'intérieur de nous la volonté profonde qu'on ne veut plus de ce galoute, on ne veut plus qu'Hachem soit caché, on veut qu'il soit dévoilé totalement. Et pourquoi? Parce qu'on est convaincu que lorsqu'il sera dévoilé, on sera réellement heureux, réellement heureux. Sur ces quelques mots, je vous propose une pause publicité et on reprend juste après. A tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, Emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands. Sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous. Organiser un cours avec un rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.
Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour à toutes. Alors, nous reprenons notre émission Judaïsme au féminin, troisième partie aujourd'hui, donc après la pause publicité. J'espère que vous êtes avec nous. Si vous êtes, venez d'arriver, alors bienvenue à vous. Donc on essaye de comprendre un petit peu dans cette émission, c'est quoi Ben Hametzarim, c'est quoi cette période de trois semaines pendant lesquelles nous nous endeuillons sur la destruction du Beth Amikdash. Essayons également de comprendre qu'est-ce qu'Hachem nous dit, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous de cette période. Donc nous avons expliqué dans un premier temps comment c'était difficile de s'identifier à une période de deuil alors que nous n'avons pas connu le Beth Amikdash. On a essayé de comprendre un petit peu c'est quoi la Géoula, c'est quoi la délivrance, c'est quoi la rédemption finale et c'était quoi également le Beth Amikdash, c'était quoi Jérusalem à l'époque, pour essayer de nous donner envie de retrouver cette vie qui a disparu et que nous avons l'obligation de nous languir de cette période pour pouvoir en vérité qu'Hachem, sauf, nous amène la Géoula et le Mashiach. Donc, il faut savoir qu'il y a une des mitzvot qui s'appelle la mitzvah de Tzipia Lishua. Ça veut dire quoi, ça, Tzipia Lishua? C'est l'attente de la délivrance. Dieu nous ordonne d'attendre et d'espérer qu'il va nous libérer, qu'il va nous délivrer. En général, cette mitzvah de Tzipia Lishua concerne donc la rédemption finale, la venue de Mashiach. Un juif a l'obligation d'attendre tous les jours et de demander à Hachem tous les jours de nous délivrer, d'amener le troisième Beth Amikdash, le Mashiach. C'est une des mitzvot, une des 613 mitzvot. C'est une mitzvah en vérité qui découle de la première mitzvah, la première des Aseret Hadibrot, le premier des dix commandements, et le commandement qui commence par les mots « Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzetira Me'eret Mitzrayim »« Je suis Hashem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte », etc. Ce premier commandement, en vérité, est le commandement de la Emouna, de la foi. Dans le premier commandement, Dieu nous dit « Tu as l'obligation de croire en moi, je suis ton Dieu et je t'ai sorti d'Égypte ». Dans ce commandement, de ce commandement découle le commandement de devoir, l'ordre, la mitzvah, de devoir demander et de devoir espérer et de devoir attendre que de nouveau, de la même manière que Dieu nous a sortis de l'exil d'Égypte, il nous sortira de ce dernier exil, cet exil qui dure depuis près de 2000 ans. Et donc, pour pouvoir être honnête, parce que cette mitzvah de Tzipi El Yeshua, ce n'est pas uniquement une mitzvah comme ça superficielle où on doit dire « Hachem, donne-nous Mashiach ». C'est une mitzvah qui demande d'être faite avec le cœur. C'est ce qu'il nous dit le Pele Yoetz, le Rav de Papou. Il nous dit « Cette mitzvah, Hachem, il veut que tu la fasses avec le cœur. » Birklal, toutes les mitzvot, tous les commandements, Dieu nous demande de les faire avec le cœur. On nous dit « Rahmana li baba » et Dieu, il veut ton cœur. Dieu, il veut ton cœur. Et d'Afka, nous, les femmes, on aime bien ces histoires de cœur. On est assez sensibles et sentimentales. Donc, on peut peut-être plus facilement que les hommes arriver à accomplir les mitzvot avec le cœur. Et Dieu nous dit, avec ton cœur, tu dois vouloir la Géoula. Bien sûr, avec ton cœur, avec ta bouche également, en demandant, en prononçant, Dieu envoie-nous Mashiach, et également avec la pensée, bien sûr. Faut savoir, le Rabbi Moshe Chaim Boudzato nous dit qu'à chaque fois qu'un juif, il demande à Dieu la Géoula, alors quelque part, il donne un nachat, un plaisir énorme à Hachem. Comme si Hachem il avait besoin de quelque chose. Hachem, il n'a rien besoin. Mais Hachem, il a créé un monde où il veut de nous, il veut nous donner. Et pour ça, lorsqu'on exprime notre désir de le voir se dévoiler dans ce monde, et en vérité, je vous ai commencé en vous parlant de cette période de 3 semaines, qui en vérité vient en parallélisme avec la période des 3 semaines, les 3 premières semaines de l'année, qui sont les semaines donc des fêtes de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, parce que les fêtes de Tishrei, ce sont les fêtes où on couronne Hachem, où on se rapproche d'Hachem. Le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. On retrouve Hachem. Pour pouvoir retrouver Hachem, il faut passer par cette période de 3 semaines pendant laquelle on va se languir. On va se languir de réaliser que notre vie sans Hachem, elle n'a pas de sens. Elle est vide de sens. Et oui, notre travail pendant ces 3 semaines, c'est de se languir de la rédemption finale, de se languir d'une vie vraie, d'une vie où on sentira la présence d'Hachem, où on sentira l'amour d'Hachem, où on ne se sentira pas déconnecté d'Hachem, au contraire, on sentira combien est-ce que on a besoin de lui, combien est-ce que sa présence, c'est comme pour nous l'air, c'est comme l'air qu'on respire. Je vais vous raconter une petite parabole qui va nous aider à comprendre combien est-ce que c'est important donc de se languir de la Géoula et surtout de demander à Hachem, de demander à Hachem tous les jours, dans nos mots, et de le supplier, de dire « Hachem, délivre-nous ». On raconte l'histoire, c'est une histoire racontée par le Rav Zilberberg. Il raconte l'histoire d'une famille en Russie soviétique. Un papa, une maman et 2 garçons. Et puis, est arrivé un moment où les garçons commençaient à grandir et où les parents reçoivent une lettre comme quoi les enfants vont devoir bientôt rentrer dans l'armée du tsar. Et on savait très très bien que des enfants juifs qui étaient pris à l'armée, il restait en général pas grand-chose d'eux lorsqu'ils sortaient de cette armée au niveau religieux. Pourquoi ? Parce que c'était une armée très dure, une armée dans laquelle ils n'avaient pas la possibilité d'accomplir la Torah et les mitzvot, une armée qui les prenait pendant de longues années, les séparait de leurs parents et de toutes leurs valeurs juives. Et donc lorsque les parents reçurent cette lettre, ils ont commencé à se dire « c'est pas possible, on peut pas envoyer nos deux petits garçons qui sont tellement, tellement purs, on peut pas les envoyer à l'armée, qu'est-ce qui va rester d'eux? Ils vont oublier tout leur judaïsme, il faut qu'on trouve une solution. » Et donc ils ont commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis ils se sont dit « on va les envoyer loin dans un internat, dans une yeshiva, loin, là où l'armée ne pourra pas les trouver. » Mais évidemment, pour pouvoir les envoyer loin, il faut de l'argent. Et ce papa et sa maman et cette maman, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, ils mettent de l'argent de côté pour réussir à les envoyer. Et ils les envoient. C'est pas évident. La séparation est très dure, tant pour les enfants que pour les parents. La séparation est très très dure. Mais les parents, ils savent qu'ils font ça dans l'intérêt de leur enfant, de leurs enfants, et ils savent à quel point c'est bon pour eux. Et donc, ils acceptent la séparation. Évidemment, à l'époque, c'est pas facile. Ils peuvent pas les voir, ils peuvent pas se déplacer pour aller leur rendre visite, ni les uns ni les autres. Téléphoner aussi, c'était pas évident. Ça coûtait très très cher, une communication. Et donc, les mois passent. Comme tout dans la vie, les enfants commencent à s'habituer. Ils commencent à s'habituer à cette vie à l'internat, cette vie à la yeshiva. De leur côté, les parents souffrent énormément de la séparation avec leurs enfants. Ils ne savent pas comment faire. Ils savent que les faire revenir, c'est risquer de les faire rentrer dans l'armée, d'être pris dans l'armée. Que eux aillent les voir, c'est aussi pas facile parce que ces deux parents travaillent très très dur. Ils ne peuvent pas, à l'époque, il n'y a pas les vacances, les congés payés, tout ça, ça n'existe pas. Et donc, ils réfléchissent, et puis ils se disent qu'ils vont essayer de faire venir leurs enfants pour la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est à peu près 8-9 mois plus tard. Et ils se disent, l'armée les a un petit peu oubliés, apparemment, ils ont compris à l'armée qu'ils n'habitaient plus là. Et donc, on va essayer de les faire revenir et de passer la fête de Pessah ensemble avec nos deux garçons. Mais de nouveau, le problème de l'argent surgit, ça coûte extrêmement cher de les faire revenir. Et pour les faire revenir, il faut également leur téléphoner. Et même leur téléphoner, ça demande de l'argent. Et donc, ils décident, le père et la mère, de mettre au point un plan comment réussir à épargner suffisamment d'argent pour pouvoir les faire venir. Et ils décident que le seul moyen qu'ils ont, c'est au lieu de prendre le train pour arriver au travail tous les matins et revenir du travail tous les soirs, ils vont aller à pied au travail et revenir à pied du travail. Alors bien sûr, c'est pas évident puisqu'il fait extrêmement froid, on est en Russie, ce sont les mois d'hiver. Mais ils se disent, le jeu en vaut la chandelle. On va réussir à mettre de l'argent de côté pour revoir nos enfants, c'est plus important que tout. Et donc voilà que tous les jours, le papa et la maman, ils vont au travail à pied. Le froid, la neige, les pluies, les routes, elles sont pas faciles. Mais pourquoi ils y arrivent? Parce qu'ils ont un objectif. On va faire venir nos enfants. Et ils mettent de côté, shekel, francs, euros, grivna, je sais pas c'était quoi la monnaie de l'époque. Ils mettent de côté donc pièce par pièce pour réussir à les faire venir. Au bout d'un moment, ils voient qu'ils ont réussi à rassembler la somme nécessaire. Et c'est avec une émotion intense qui passe ce fameux coup de fil à la yeshiva. Donc, comme je vous l'ai dit, même téléphoner, ça demandait beaucoup d'argent. Mais c'est le moment. Ils ont tellement attendu et ils se disent, comme les enfants, ils vont être contents. Comme les enfants, ils vont sauter de joie lorsqu'on va leur dire qu'on a la possibilité de les faire venir pour les fêtes. Et voilà qu'ils appellent. Ils appellent le papa et la maman. Ils attendent d'être ensemble, bien sûr, pour cet appel qui est tellement important à leurs yeux. Et ils appellent, donc la yeshiva, le téléphone sonne. Et ils arrivent donc à avoir un de leurs enfants sur la ligne. Et voilà qu'ils lui disent, tu sais quoi? On a une super bonne nouvelle pour toi. On a réussi à rassembler suffisamment d'argent pour vous faire venir, toi et ton frère, pour la fête de Pessah. Et puis là, il y a un blanc. Et l'enfant, il se met à bredouiller. Mais c'est pas la peine, c'est pas la peine, vous avez tellement besoin de cet argent. On peut rester là, on peut rester à la yeshiva, on est bien ici. C'est pas, j'ai trop de peine pour vous. Gardez cet argent pour autre chose. Vous avez tellement de besoins, vous manquez tellement de tout, toi et maman. Et puis le frère donne le téléphone à son autre frère. Et l'autre frère, pareil, il dit la même chose. Il dit... Mais c'est dommage, pourquoi est-ce que vous êtes tellement privé? Pourquoi est-ce que vous avez mis. Vous êtes tellement souffert pendant ces mois pour mettre cet argent de côté? On est installé ici, on a nos amis, on a notre vie, on a nos repères maintenant, c'est dommage. Imaginez-vous la souffrance et la douleur que le papa et la maman ressentent à ce moment-là. Les enfants ne veulent pas revenir à la maison. Les enfants sont bien là-bas. Ils décident, le papa et la maman, qu'ils ne vont pas les forcer. C'est aux enfants de vouloir venir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur disent comme vous voulez et ils raccrochent. Et pour le père et la mère, c'est la fin du monde. Ils ont tellement attendu ces retrouvailles, ils ont tellement espéré ces retrouvailles, et voilà que les enfants eux-mêmes ne sont pas intéressés de revenir. Les enfants eux-mêmes se sont fait une vie là-bas. Et le père et la mère se mettent à pleurer, jusqu'à ce que, tard dans la nuit, un des frères se rend compte « Mais je suis fou, on est fou. Comment est-ce qu'on a osé dire à papa et maman qu'on ne voulait pas revenir les voir ? Mais on est inconscient. » Et l'enfant, il se débrouille pour réussir à téléphoner. Et il appelle chez lui à la maison. Et il dit à ses parents « Je regrette, je veux venir, bien sûr que je veux venir, je vous ai trop langui, tout de suite je veux venir, je vous en prie, envoyez-nous l'argent, on veut revenir. » Et ce coup de fil, il donne aux parents le nahat, le plaisir, la sensation que c'est pas en vain tout ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'ils attendaient, que leur enfant veuille revenir, c'est tout ce qu'ils demandent, c'est tout ce qu'ils demandaient les parents. Le Rav Zilberberg nous dit que dans cette parabole, c'est nous avec Hachem. Hachem, il veut qu'on lui demande de revenir. Que nous on revienne, que lui revienne, qu'on se retrouve. Parce qu'on s'est perdu toutes ces années de galoute et d'exil. On s'est perdu. On a perdu le sens de notre vie. On a oublié pourquoi est-ce qu'on est là. D'ailleurs, vous savez, le mois de Tammuz, donc on sait que cette période de Ben Hametzarim s'étale sur le mois de Tammuz et le mois de Av. Le mois de Tammuz, Rabbi Nachman de Breslev nous dit que dans les lettres du mois de Tammuz, nous avons allusionné la dernière prophétie qui a été prophétisée par le prophète Malachi. Le prophète Malachi termine les prophéties en disant « Zirchou Torat Moshe, souvenez-vous de la Torah de Moshe ». Et Rabbi Nachman nous dit que dans les mots du mois Tammuz, Tav, Mem, Zain, sans les voyelles, ce sont les mêmes lettres que les premières lettres de la phrase Zirchou Torat Moshe, souvenez-vous de la Torah de Moshe. Et Rabbi Nachman explique là-dessus. Pourquoi ? Quel rapport entre cette phrase et ce mois ? Parce que dans ce mois de Tammuz, qu'est-ce qu'Hachem nous demande de nous ? De nous souvenir. De nous souvenir parce qu'on a oublié. On a oublié tellement de choses. On a oublié qui on est. On a oublié où se trouve la vérité. On a oublié qu'est-ce qu'on veut réellement. On pense que ce qu'on veut réellement, c'est les futilités de ce monde. On a oublié que ce qu'on veut réellement, c'est vivre notre vie de juif réellement, pleinement. On a oublié. Et donc, ces trois semaines, elles viennent nous rappeler et nous rappeler ce qu'on a oublié. Nous rappeler que comme ces enfants qui appellent leurs parents pour leur dire « Non, on veut venir !» qu'Hachem, il attend de nous qu'on lui demande « Oui Hachem, on veut te retrouver, on veut te retrouver !» Et de la même manière qu'on arrive à comprendre la joie que les parents ont ressentie lorsque l'enfant les a appelés pour leur dire « Oui, je veux revenir !» Alors, Rabbi Moshe Chaim Oulato nous dit « Comme ça Hachem !» Comme ça Hachem, il veut qu'on lui dise « Je veux revenir, je veux revenir. Et je veux que tu reviennes, Hachem. Je veux qu'on se retrouve. Je veux de ces retrouvailles. » Et à chaque fois qu'un juif, il lève les yeux au ciel et qu'il dit « Dieu, mon Dieu, je veux qu'on se retrouve. Je veux que tu te dévoiles dans ce monde. Je veux que tu nous amènes la Géoula finale, la rédemption finale, Mashiach. » Alors, chaque fois, on donne un nahat à Hachem énorme. Et pour pouvoir le dire du fond du cœur, il faut le réaliser. Il faut comprendre combien est-ce que c'est la solution ? C'est la clé à tous nos problèmes. C'est la clé à tous nos problèmes. Et ne pas se perdre, et ne pas se tromper, et croire comme le prince de la parabole que j'avais raconté tout à l'heure, que la solution, c'est à manger, à boire, la guérison. Non, ce n'est pas la solution, ça. La solution, c'est sortir du trou. La solution, c'est sortir de ce galout, et vivre en Géoula. Donc, voilà, notre émission touche à sa fin. Je tenais réellement à vous remercier d'avoir été avec moi pendant cette dernière heure, parce que je pense que ce sont des choses importantes. On a essayé de se renforcer ensemble, on a essayé de comprendre c'est quoi cette période. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on va continuer à expliquer comment est-ce qu'on peut activement hâter la venue de Mashiach. Donc dans notre émission Judaïsme au féminin, je compte sur vous pour être présente la semaine prochaine. Je vous rappelle que celles qui veulent nous écrire, ont quelque chose à nous dire, vous pouvez nous écrire en mail à radio@torah-box.com. J'ai été très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous en remercie et je vous souhaite une merveilleuse semaine.